18h-19h, Tribune Nord, Sylvain Charlet, sur France Bleu Nord.
L'équipe est au complet, Alice est à la réalisation, Ahmed est au standard, vous allez appeler au 03 20 55 89 89 pour remporter le ballon Kipsta Décathlon. C'est un grand classique désormais, ballon d'une valeur de 80 €, le ballon officiel de la Ligue 1. La question, on vous la posera un peu après 18h25. Le programme du soir, bien entendu, Lille et la course à la Ligue des Champions qui bat son plein. 3 succès de rang avant un choc face à Monaco, mercredi soir à 21h. À Lens, on va revenir sur le malaise Wai, sifflé après 3 ratés en deuxième période. Son coéquipier Brice Samba s'est dit scandalisé par le comportement d'une partie des supporters. La Ligue 2, le maintien qui se profile pour Dunkerque, qui s'est encore imposé, victoire 1-0 contre Amiens. Le premier relégable est à 6 points. Et puis on va aussi s'intéresser à cet éventuel nouvel investisseur américain qui pourrait débarquer à Lens en tant qu'actionnaire minoritaire. Et on va reparler du joueur de la semaine. Il est argentin. Il provoque le cauchemar de nombreux supporters français, dont nous faisons partie, Emiliano Martinez. Je n'oublie pas également le Top Com spécial Coupe d'Europe, car désormais c'est fini. Et un petit quiz de fin d'émission. Il se réunit autour de la table ce soir, mon freestyler préféré, Rémi Coquel. Salut Rémi.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Sylvain.
Toujours bien connecté sur les réseaux, si on veut vous solliciter pour une, pour un tournoi de fin de saison, là, Rémi Coquel sur le net et petite
c'est démo. Ça, sur les réseaux, sur Google, on peut me trouver assez facilement et je suis plus connecté que jamais là, je suis très réactif on va dire.
Loïc Bonnage de France 3 est là, bonsoir Loïc.
Salut Sylvain, salut à tous.
Félicitations à un nouveau membre dans la famille Bonnage.
Ouais, merci Sylvain.
Monsieur est devenu papa.
Tout à fait.
C'est votre première depuis la naissance.
C'est ma première depuis la naissance.
Ouais. J'espère que toute l'équipe est...
Ça va, la radio, on voit pas les cernes.
Non, ça va, vous êtes beau, vous gérez bien. Vous gérez votre effort, vous gérez votre effort. Il gère aussi son effort, Mathis Caron de France Bleu Nord. Salut Mathis.
Salut Sylvain, salut à tous.
Qui est en repos aujourd'hui, mais il a commenté Lille-Strasbourg, il est venu débriefer cette rencontre.
Pas de repos ici.
Exactement, on n'arrête jamais. Notre agent de joueur qui est toujours sur le front, qui est en train de négocier quelques contrats déjà, Cédric Van Goten. Non, on n'a pas le droit. On ne discute pas avec les clubs hors période mercato.
Bien sûr que si, les prolongations. Il n'y a pas d'ouverture de fenêtre pour les prolongations. Oui, j'ai toujours une carte dans ma main.
Pas mal. Allez, c'est parti.
Tribune Nord, l'info du week-end.
Et l'info du week-end, c'est la belle perf de Lille qui est en course pour la deuxième place de Ligue 1. Lille a battu Strasbourg 1-0.
Attention à la perte de balle de Silla avec Ismaili qui récupère ce ballon. Il décale Jonathan David. David qui rate complètement son face-à-face. Non, elle est au fond. Bélarouche qui a dévié ce ballon dans ses propres buts. La perte de balle de Silla à seulement 1 mètre de la surface de réparation et l'ouverture du score. Ismaili qui était à l'affût. Il est venu presser très haut le Brésilien.
C'est par les victoires que ça va passer. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été aujourd'hui. Mais j'ai envie de retenir que la victoire en fait. Parce que pour la tête. Pour le classement, pour ce qu'on veut aller chercher, en fait, c'est trop important. Donc je préfère être moche et gagner que être beau et perdre.
Eh ouais, Lille est là. Lille est en course pour cette place en Coupe d'Europe. Lille qui est revenue à 1 point de Brest et qui reste à 3 points de Monaco. Monaco est deuxième. Je vais faire un premier tour de table à savoir où vous voyez Lille en fin de saison. Il reste 5 matchs à jouer pour Lille et Monaco. Rémi, deuxième, troisième ou quatrième? J'oublie la cinquième place, hein, ils vont terminer dans les quatre, hein, j'en suis convaincu.
Alors ça, je suis d'accord, maintenant, ouais. On peut me reposer la question d'ici 3-4 jours après le...
Non, on y va, on se mouille.
J'espère la deuxième place, mais... Ouais, la deuxième place.
Je vous donne des indices avec le calendrier. Lille va aller à Metz, va recevoir Lyon, ira à Nantes et va recevoir Nice. Monaco va aller à Lyon, va recevoir Clermont, va aller à Montpellier et va recevoir Nantes. Et Brest ira à Rennes, va recevoir Nantes, va aller à Reims et ira à Toulouse. Mathis, deuxième, troisième ou quatrième les Lillois?
Pour moi, ils seront troisième. Voilà, après une longue analyse. Et même au-delà des calendriers, je pense qu'ils finiront au troisième. Je vois Brest s'effondrer avec cette peur de concrétiser dans le sprint final. On sait que c'est un club qui a pas l'habitude de jouer le podium, évidemment. Donc j'imagine qu'ils peuvent s'effondrer. On voit qu'ils ont perdu 3 fois sur les 6 derniers matchs. C'est autant que sur le reste de toute la saison. Donc j'ai envie de croire qu'il y a vraiment une baisse de forme de Brest et je les vois chuter. Mais à l'inverse, je vois Monaco... finira la seconde.
Ouais, Monaco a l'air vraiment costaud. Je vous donne simplement les points sur les 6 derniers matchs. Rémi, vous pourrez revoir votre jugement si vous voulez. Sur les 18 derniers points possibles, 7 points pour Brest, 14 pour Monaco, 14 pour Lille. Loïc Bonnèche.
J'ai le sentiment que tu sous-entends que Rémi, il a été un peu ambitieux avec la deuxième place.
Ah ben, moi j'ai envie d'y croire aussi à cette deuxième place.
Moi j'y crois.
Hein ah, moi je dis trois.
Trois
okay. Aussi, lié à la dynamique de Monaco, au calendrier, la profondeur de banc de Monaco. Lille sort quand même d'une campagne éprouvante en Coupe d'Europe. Et je pense que ça va être... Après, ça dépend du match de mercredi. S'ils gagnent là-bas, tout est possible parce qu'ils ont des calendriers assez similaires, des adversaires assez similaires jusqu'à la fin de saison. Mais à mon avis, mercredi, ça va être dur.
Lui, c'est un malin, parce qu'il a dit exactement. Parce qu'il. Quand,
c'est deux. Mais bien toi, non, ça mais. Fait
en fait, notre ami a demandé.
Rémi
a demandé de 2-3 jours de réflexion. Et vous, finalement, vous dites la même chose, parce que ça, c'est deux. Et moi, je vais dire la même chose, c'est 2 ou 3 en fonction du résultat de mercredi. Et puis voilà, on le sait.
Cédric m'a défendu.
Ouais, moi, je défends tout le monde.
Après, il faut rappeler quand même quelque chose de très très important. Il faut quand même éviter, si on veut aller en Ligue des Champions, Mathis, cette quatrième ouais. place. Parce que cette quatrième place, elle n'est pas qualificative directement. C'est un traquenard pour décrocher la nouvelle Ligue des Champions où il y aura 36 équipes à partir du mois de septembre. Il faut vraiment l'éviter, cette quatrième place.
C'est ça. Bah déjà, ça implique de jouer un match quasiment en plein été, en plein mercato, donc c'est jamais simple.
C'est 4 matchs, c'est 2 tours.
Oui, il y a 2 tours.
2 tours de qualification.
Et donc, ça implique de jouer ça en plein mercato, l'été. Et puis, historiquement, ça ne réussit pas trop au club français, il faut le dire. J'ai vu un peu les clubs qui... pour l'instant, peuvent se qualifier pour ces barrages. J'ai vu des clubs comme Porto ou Fenerbahçe potentiellement.
Exact.
Ça rappelle pas des bons souvenirs aux Lillois. Le Porto avait battu justement Lille dans les barrages de Ligue des Champions en 2014. Bon, c'était il y a déjà 10 ans, mais ça montre bien. Puis c'est des clubs qui ont beaucoup plus d'expérience que Lille sur la scène européenne. Donc, ouais, c'est vraiment un traquenard. Après, il y a toujours l'autre consolation de la Ligue Europa, quoi. Mais bon.
Ouais, si on peut avoir la Ligue des Champions pour les finances, on le rappelle, il y a encore une dette à éponger, même si ça va beaucoup mieux. Non, mais c'est vrai que pour l'instant, si on arrête les championnats, si vous terminez quatrième, ce qui est la place de Lille pour l'instant, il y a Porto, il y a la Saint-Gilloise en Belgique, il y a les Rangers, il y a le Sturm Graz, il y a Fenerbahçe, il y a le Dynamo Kiev ou le Shakhtar Donetsk, il y a Twente. Ça fait du bon moment, et surtout un moment complexe. On est au mois d'août, on est en train de préparer, de lancer sa saison. Et le championnat n'aura même pas débuté encore, puisqu'on sortira des Jeux Olympiques.
Exactement, exactement. Alors déjà, le début de saison, bon, on sait à quel point c'est important. On l'a vu à Lens cette année. En plus, il y a le mercato, la préparation. Donc, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui vont venir s'inclure à la préparation vers mi-août, fin août. Donc, qui vont arriver finalement en pleine campagne européenne, alors qu'ils n'ont même pas le temps de s'adapter. Ça rajoute une difficulté. Puis mine de rien, il y a des matchs aussi de Ligue 1 au mois d'août. Donc, ça veut dire qu'ils vont jouer déjà tous les 3 jours au mois d'août. Ça va être un début de saison éprouvant, quoi.
Bon, en tout cas, ce qui est hyper intéressant, Loïc, c'est que on a eu la confirmation que collectivement, cette équipe, elle était en place et qu'elle avait de la marge. Elle a su gérer, par exemple, l'adversité face à Strasbourg, alors qu'elle venait de jouer à Aston Villa. Elle gagne 1-0 un peu à l'arraché. Mais voilà, elle est présente, elle est efficace, elle est réaliste, cette équipe lilloise.
Ouais, surtout que Fonseca a fait un peu de gestion d'effectifs avec Zegrova sur le banc, Yoro qui était pas aligné. Donc, voilà, c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. La première mi-temps était quand même super intéressante de leur part. La deuxième, un peu plus dans la gestion, ils ont fait un peu peur, mais c'est resté solide. Et puis voilà, 3 points très très précieux à l'issue.
C'est vrai que ce match face à Monaco, ça va être un grand. Enfin là, c'est le choc, Cédric Van Gotten.
Ouais, ça détermine tout, parce que la quatrième place, c'est la troisième place d'avant, c'est l'incertitude économique, c'est une préparation qui se déroule pas comme elle devrait. Voilà, la quatrième place, c'est la troisième place. Après, il y a une autre solution. Faut que Leverkusen gagne la Coupe Europa. Et puis la quatrième place est qualificative un peu plus directement.
Ça, c'est sûr, ça.
Je pense que si on regarde, on est prioritaire par rapport à d'autres pays pour récupérer au moins gagner parce peut-être un tour, peut-être pas deux, mais ou sur un.
On rappelle que si le Bayer Leverkusen remporte la Ligue Europa, il sera qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions. Donc ça pourrait libérer une place qui pourrait revenir à la France.
Elle reviendrait apparemment à la France.
Mais soyez sûr, ici on n'avance pas des choses non vérifiées, hein, s'il vous plaît.
Moi je suis pas un maître escalcule.
Ah non mais avancez pas les trucs comme ça là. Vous allez me régaler tous les supporters qui vont me dire demain ah ben c'est bon si Bayer Leverkusen remporte la Ligue Europa, on est qualifié. Mais soyez sûr.
Bah ce que je suis sûr par contre c'est que le match d'hier Lille l'année dernière il n'aurait pas gagné.
Oui c'est vrai.
Ça non mais ouais. ça j'en suis sûr par contre ça c'est hier ça a été quand même une maîtrise qu'on leur connaissait. Bon, cette année, oui, mais l'année dernière, on ne leur connaissait pas du tout.
Mais Baptiste, c'est une vraie évolution dans ce que proposent les Lillois. Vous étiez au match hier, on s'est fait peur en fin de match. Mais avant cela, il y a vraiment eu beaucoup de choses offensivement en première et dans la maîtrise en deuxième.
Oui, c'est vrai. La première mi-temps était quasiment parfaite. En vrai, on avait l'impression que Strasbourg n'existait pas. Il faut dire aussi que c'est un club qui avait plus grand-chose à jouer en cette fin de saison. Enfin, ils ne sont pas officiellement maintenus, mais c'est tout comme. Donc, ouais, Lille a fait vraiment une super première mi-temps. On a le sentiment qu'ils auraient pu mettre plus de buts. Mais c'est vrai que cette deuxième mi-temps, bah, Lille s'est quand même fait assez peur. Il me semble qu'ils ne frappent pas au but en seconde mi-temps.
Non, pas de frappe au but.
C'est une stat quand même qui est un peu, qui est pas terrible, il faut le dire. Et puis, il y a ce face-à-face raté par Delaine qui est vraiment dans le but presque au moment de...
Il y a trois occasions dans le dernier quart d'heure.
Ouais. Donc, ils se sont quand même fait peur. Et là, on aurait un discours peut-être totalement différent si jamais Strasbourg avait réussi à se concrétiser ces occasions. Mais oui, c'est clair que c'est un match qui montre quand même une certaine mentalité, un certain état d'esprit. Et c'est ce que Paulo Fonseca et Lucas Chevalier ont dit d'ailleurs après le match. Mais bon, l'important, c'est évidemment la victoire parce que tout le monde était très fatigué, physiquement, mentalement. Lucas Chevalier avait même expliqué que c'était le pire moment de sa carrière, ce match contre Aston Villa. Donc, il fallait rebondir juste pour repartir sur une bonne base. En fait.
Ouais, c'est vrai qu'il fallait le digérer. On reparlera d'Emiliano Martinez.
C'est pour ça que moi, à la limite, cette semaine, je crains plus le match contre Metz que le match contre Monaco. Parce que ce sera encore un match en plus d'ici Metz, donc de la récupération qui ne se fait pas. Et Metz, qui joue, lui, son maintien, qui va cravacher. Et on a plus de mal peut-être.
Lille veut la deuxième place. Parce que là, si vous faites match nul, match nul mercredi, à minima, vous êtes troisième.
Oui, mais ils vont gagner mercredi. Ouais. Mais par contre, ils sont capables de faire une cagade derrière parce que c'est ça aussi. J'ai l'impression.
Vous les pensez capables de faire une cagade à ce moment-là de la saison ?
Mais Metz est en forme. Hein.
Mais Metz doit se sauver. Metz est en forme. Il doit se sauver. Lille, ce sera le quatrième match en une semaine et demie, dont un avec des prolongations. Et puis, n'oubliez pas qu'ils ont toujours peut-être un peu plus de mal contre ces équipes-là que contre Monaco, Marseille, Lens ou Brest.
Rémi, pour conclure sur le sujet.
Bah justement, Strasbourg, elle faisait partie de ces équipes-là parce qu'ils ont été gagnés à Nantes, je les ai sous les yeux, ils ont battu Rennes, match nul contre Toulouse, ils ont battu Reims. Lens se dit, c'est une équipe qui quand même prenait des points sur le dernier mois.
Et qui n'avait rien à perdre en venant à Montroy.
Mais tout à fait.
Tout a gagné.
Et en plus de ça, on parle d'une équipe du LOSC donc qui avait joué 3-4 jours avant les 120 minutes, où il y avait une rotation de l'effectif. Et malgré tout, ils ont réussi à tenir le résultat tout de même face à Strasbourg.
Ils sont réunis ce soir pour débattre, pour parler de Lille, pour parler de Lens. Rémi Coquel, Loïc Benesch, Cédric Van Goten et Mathis Caron.
Tribune Nord, toute l'actualité des 100 et or, en direct sur France Bleu Nord, Sylvain Charlet.
Le Racing Club de Lens, lui, est toujours sixième. Lens a gagné à l'arraché face à Clermont, 1-0, ça n'a pas été facile. Et un joueur a un peu raté sa deuxième période. Eli Wahi, 3 face-à-face perdus avec le gardien. Et forcément, Eli Wahi est un petit peu la tête de Turc. Et le public l'a sifflé.
Wahi dans la surface de réparation. Wahi, oh la parade encore. La parade encore. Et là encore.
Là, c'est parade, là.
Et la sortie de Wahi. Sortie de Wahi, 3 ratés en deuxième période. Il est conspué. Il est sifflé. Il est sifflé par le public de Bollaert.
Inadmissible. Tout simplement. Pour moi, c'est un scandale. T'es chez toi, tu mènes 1-0, t'as un de ton attaquant qui est sifflé. J'ai rarement vu ça. C'est supporter et c'est comme ça. Peut-être que l'année dernière, on a tellement habitué les gens à tout gagner, à être bon tous les matchs. Donc du coup, les gens ont peut-être changé de standard, tout simplement. Mais il faut que vite les gens redescendent. Ce serait bien.
J'ai même pas envie d'en parler. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'aident pas le joueur, ils n'aident pas l'équipe. Voilà, ils jouent contre leur camp.
Bon, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, Loïc Benesch, est-ce qu'un public a le droit de siffler un joueur qui fait un mauvais match ?
Alors tu dis aujourd'hui, c'est pas nouveau qu'un public siffle un joueur, même à Lens.
Parce que quand vous allez à un spectacle qui est mauvais, est-ce que vous sifflez l'auteur du spectacle ?
Ils ont le droit. Ils font ce qu'ils veulent en soi. Après, ça touche les joueurs et c'est pas étonnant. Enfin, voilà, c'est pas ça qui va l'aider à prendre confiance. Je suis pas sûr qu'Aze lui ait fait un cadeau en le sortant à ce moment-là du match.
À quelques minutes de la fin du match, il le sort parce qu'il pense qu'il a un souci. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse.
Voilà,
vous pouvez lui éviter.
C'était pas pour lui créer une bronca, ça c'est certain.
Ah, je veux te tester mentalement.
Mais voilà, après, ils ont le droit, mais ça va pas aider le joueur, c'est certain. Donc c'est stupide.
Rémi Coquel.
Oh là là, il y a tellement de choses à dire.
Bah on y va, on commence. On a 8 minutes.
Moi je trouve pas déjà qu'il ait fait un mauvais match, parce que un attaquant qui ne se crée pas d'occasion, D'accord, on peut le siffler parce que le mec serait pas remuant ou autre. Là, pour le coup, on pouvait reprocher ça à Eli Wahi au début de saison. Un petit peu de nonchalance, etc. Là, pour le coup, les occasions qu'il s'est créées, il est allé les chercher. Notamment la deuxième où il est au départ de l'action, il fait un super appel, il reçoit le ballon, il arrive à frapper juste avant le retour du défenseur. Il y a un bel arrêt du gardien clermontois. Ça se joue pas à grand chose. Et après, ça peut vite devenir une spirale. On voit que la troisième, il est plus dedans, quoi. Il est clairement plus dedans. Moi, à mon sens, c'est celle-là, la plus.
Où il veut dribbler le gardien. Et...
C'est la plus révélatrice, celle-là. C'est la plus révélatrice. Ça montre à quel point il n'était pas en confiance sur ce match. Et puis pas en réussite non plus. Hein. Je pense aussi à la barre qu'il a mis contre le Havre. Si elle est en pleine lucarne, c'est la même chose. Il n'est pas en réussite. Il n'est pas en confiance. Donc si, à la limite, il était nonchalant et qu'il ne se créait pas d'occasion, là, je dirais d'accord. Mais là, pour le coup, je pense que c'est un petit peu extrapolé de la part des supporters lensois pour cette fois.
À vous, Cédric.
Ça n'a pas été le plus mauvais en plus samedi. J'étais au match, vous savez.
C'est bien d'aller à Lens.
Bien sûr. Bah,
vous allez partout. Non, mais vous allez partout.
Je vais partout. Non, j'étais invité. Je le remercie, Dominique Bailly. J'ai été invité par Dominique au match. Donc, j'étais au match. C'est pas, ça pas, on va revenir au foot. Ça n'a pas été le plus mauvais samedi soir. Et puis, dans cette histoire, je veux dire, il y a les supporters, les mêmes. Qui se plaignent, qui débutent pas le derby ou qui débutent pas contre le Havre, ce sont les mêmes qui le sifflent parce que il marque pas contre Clermont. On est en pleine injonction paradoxale là. D'un côté, ils veulent le voir sur certains matchs et d'un autre côté, ils le sifflent quand il marque pas.
C'est un peu la définition de certains supporters, du mode de fonctionnement de certains supporters.
Et le pire dans l'histoire, et c'est ça qui me chagrine le plus, c'est que je le voyais arriver cette situation et je vais vous dire pourquoi. Parce que en début de saison. Il y a peut-être eu trop de communication sur le fait qu'il ait été acheté 30 millions. Et on dirait qu'aujourd'hui.
Ah non, on pouvait pas les.
Mais on dirait qu'aujourd'hui, au prétexte qu'il a été acheté 30 millions, forcément, il devrait mettre un but par match, autrement, c'est pas normal.
À 30 millions, moi, je pense qu'il doit au moins en mettre un, là.
Eh ben, vous verrez alors, qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine quand il va en mettre 15 ou 20?
Ah ben, je dirais, c'est bien, tant mieux, bel investissement, 30 millions d'euros du Racing Club de Lens.
T'as vu, ça va être la faute des journalistes d'avoir trop communiqué sur les 30 millions qu'il a coûté.
Pas forcément les journalistes.
Ces agents.
C'est aussi ceux qui vous donnent les informations. Ah, ça fait bien d'acheter un joueur 30 millions. Mais après, ça peut vite devenir un problème avec ses supporters. Par contre, là, ce qu'il faut signaler aussi, c'est que quand il est sorti, et Francaise et tout le banc ont été vers lui, ont eu un geste. Donc, il n'est pas lâché par le groupe.
Oui, il est coucouné.
C'est très important.
Il est protégé.
Au contraire, il est même protégé par le groupe. C'est Brice Samba l'a dit à la fin, Francaise l'a dit à la fin. Ils sont toujours derrière leur attaquant. Et c'est normal si on se base uniquement sur les statistiques. Pas sur ce qui se passe sur le terrain, parce que moi j'estime qu'il a beaucoup progressé, je sais pas si vous serez d'accord ou pas avec moi, mais en termes d'investissement sur le terrain, en termes de pressing, etc., ce qu'on lui reprochait en début de saison, je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré là-dessus. Donc après, c'est pas encore Openda, de toute façon pour faire du Openda, faut être Louis Openda.
Ce sera pas Openda cette saison, c'est sûr.
Mais il a beaucoup évolué là-dessus, si on se base uniquement sur les statistiques, bah, il y a déjà eu des attaquants qui ont pas été conspués pour autant à Lens et qui ont mis une dizaine de buts sur la saison. Je pense à Outaka. À l'époque, c'est un joueur que moi, j'admirais beaucoup quand il était à Lens et c'est presque une légende du RC Lens. Pourtant, il a fait des saisons entre 6 et 10 buts. Mm-hmm. Et personne ne le huait pour autant.
Exactement. Mathis Caron.
Je voulais revenir sur un point qui a déjà été évoqué, mais c'est que on pourrait peut-être le siffler s'il y avait un manque d'implication, mais j'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas. On se rappelle par exemple de ses larmes contre Strasbourg, ça montre bien que ça l'affecte et que il aimerait faire mieux, évidemment. Donc c'est un joueur on voit qu'il aime le club, on voit qu'il a envie d'avancer. Et puis on a parlé d'Openda. Ouais, quand même, c'est quelqu'un qui se crée des occasions. Il cadre autant de tirs que Openda la saison dernière.
Ah, bonne stat.
C'est une stat qui
très, très bonne stat.
C'est une stat quand même qui démontre que devant le but, il est très maladroit. Ça, parce qu'avec le même nombre de tirs cadrés par match, Openda met le triple de but. Wahi est à 7, Openda en avait mis 21. Bon, avec quelques matchs en plus, du coup. Mais ça montre quand même que, sur le terrain, il est actif, qu'il arrive à se procurer des occasions et que c'est un problème de confiance. Évidemment, un attaquant qui n'est pas bon devant le but, c'est souvent lié à sa confiance. On sait que l'année dernière, il met une vingtaine de buts avec Montpellier. Il n'a pas oublié comment marquer. Juste, il n'est pas en confiance et de ses sifflets, ça va clairement pas l'aider, ça c'est sûr et certain.
Cédric.
Non, mais il faut voir aussi, sur beaucoup de matchs, et en particulier sur celui de samedi, c'est je te mets une grande balle devant, cours après, et puis débrouille-toi tout seul, parce que c'est face à face. Avant, les face à face contre le gardien qui perd, c'est ça. C'est je te mets une grande balle en avant, et puis tu te débrouilles tout seul, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde autour de lui ou derrière lui. Hein.
C'est ce que l'on dit souvent, c'est qu'il n'est peut-être pas forcément aujourd'hui adapté au système du Racing Club de Lens, mais je regardais les compos Montpellier-Rennes, Mais à Montpellier, j'ai l'impression qu'il évoluait aussi seul en pointe. Après, j'ai pas souvenir des matchs des Montpelliérains, mais sur les schémas tactiques, c'est du 4-2-3-1, même si un joueur comme Valère Germain pouvait, Loïc, aller jouer un petit peu plus proche de lui. J'ai du mal à entendre ça.
La différence dans le style de jeu, elle est peut-être sur le fait que Lens abuse peut-être un petit peu des centres, venant des ailes et sur des ballons aériens.
Viennent des couloirs.
Et c'est pas forcément son registre, avec Savagnier, avec Germain. Je pense qu'il avait Mollet.
Plus de jeu à l'intérieur.
Jeu à l'intérieur. Le jeu aujourd'hui, à l'intérieur, il va être amené un peu par Sotoka, un peu par El Aïnaoui.
Pereira da Costa.
Oui, voilà.
Mais c'est vrai que les combinaisons, elles viennent surtout des couloirs.
Mais à Montpellier, quelque part, mis à part Savagnier, c'était la star de l'équipe. Donc bien mentalement, il était dans toute autre condition. Et ça joue beaucoup.
Bon, je vous pose la question. Combien de buts pour Eli Wahi s'il est toujours à Lens la saison prochaine? On a 30 secondes, tour de table. Parce 15. Que cette saison. 15, ok.
15.
Mathis?
10.
Ok.
20.
Ou 20.
Autour de 15.
Ok. Allez, comme Jonathan David actuellement, 17 buts. On reparlera de Jonathan David dans les prochaines semaines, on ne sait jamais. Et puis on va revenir dans quelques instants, dans cette deuxième demi-heure, sur cette indiscrétion du journal L'Équipe qui avait été révélée ce week-end. Le rapprochement entre le Racing Club de Lens et le fonds américain d'investissement Isos Capital. On en parlera dans quelques instants. Il sera aussi question de Ligue 2 avec la nouvelle victoire de Dunkerque. Alors, je vous pose la question de sélection pour remporter le ballon Kipsta Décathlon. Vous appelez Ahmed au 03 20 55 89 89. La question, elle concerne le LOSC. Quel joueur lillois était suspendu hier pour le match remporté contre Strasbourg 1-0? Première proposition, Lenny Yoro. Deuxième proposition, Nabil Bentaleb. Troisième proposition, Rémi Cabella. Vous appelez Ahmed, 03 20 55 89 89, et on revient dans quelques instants pour la deuxième partie de Tribune Nord avec Rémi Coquel, Loïc Benesch, Cédric Van Goten et Mathis Caron. Épisode 33 de cette saison palpitante avec deux clubs qui sont en course pour décrocher l'Europe. Lille est 4e et Lens est 6e.
France Bleu présente Où les talents, le grand concours musical 100% Hauts-de-France.
Vous êtes chanteuse, chanteur en solo ou en groupe. Participez à la 2e édition de Haut les talents et devenez la révélation 2024 des Hauts-de-France lors de la grande finale le 11 juin en public à Mégacité Amiens.
Haut les talents, l'événement musical et régional 100% Hauts-de-France sur France Bleu.
Infos et inscriptions dès maintenant sur francebleu.fr.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Nord, ici, on parle d'ici.
Pendant que vous tentez de gagner le ballon Kipsta, justement, un petit coup d'œil sur la route à 18h30, on retrouve Denis à la cellule de vigilance routière. Denis à la préfecture.
Bah écoutez, Philippe, on a toujours cette difficulté sur la nationale 227, l'accident au point kilométrique numéro 4 qui implique 3 véhicules et un poids lourd. Donc il y a du dépannage de 2 véhicules et du poids lourd à effectuer. Donc effectivement, vous êtes toujours gêné donc dans le sens Gand vers Lille, juste avant, ça commence depuis juste avant la cour de Babylone, jusqu'effectivement à hauteur des lacs, donc prudence sur le secteur.
Ça coince toujours là.
Ça coince toujours effectivement. Il nous reste une petite difficulté sur l'autoroute A22 en direction de la Belgique, au tressement de 3-2 voies hauteur de Marc-en-Barœul. C'est habituel mais rien de trop grave à cette heure-ci. Et c'est la même chose en direction de la Bassée, au rond-point de Fourlan-Web, on a toujours cette gêne juste avant le rond-point. On nous tient un nouvel accident, cette fois-ci sur l'autoroute A21, dans le sens Lens vers Valenciennes. C'est la sortie à hauteur de la sortie Somain, 3 véhicules en cause. Donc on est dans la sortie de Somain. Donc prudence sur le secteur. Et puis après, que ce soit les autoroutes, que ce soit l'autoroute A2, l'autoroute A21, l'autoroute A16, pas de difficulté à cette heure-ci, ça roule correctement.
En dehors de ces accidents-là, on a une circulation de vacances, on va dire fluide, mais attention quand même à cette 227 notamment et l'A21. Je comprends bien.
C'est tout à fait résumé.
Secteur délicat. Merci beaucoup en tout cas, Denis, à la préfecture. Bonne soirée.
Bonne soirée, à demain.
18h31, à demain. C'est parti pour la deuxième mi-temps de Tribune Nord, justement, ballon en jeu, toute l'équipe est là, c'est parti, hop, coup d'envoi, c'est parti.
France Bleu Nord, 100% foot, Tribune Nord sur France Bleu Nord.
La reprise de la rencontre avec une deuxième demi-heure riche. Je n'oublie pas le top com. On va faire un petit bilan de la Coupe d'Europe. On va avoir notre petit quiz où vous pourrez participer à distance. On va revenir aussi sur la performance de notre joueur de la semaine. Il est argentin. Il s'appelle Emiliano Martinez. Il a fait beaucoup de mal une nouvelle fois au football français et au football lillois. Et dans un instant, on va parler nouvel investisseur au Racing Club de Lens.
Tribune Nord, le buzz des réseaux.
Mais le buzz des réseaux, on va le consacrer un petit peu au foot freestyle avec Rémi Coquel qui fait partie de la bande de Tribune Nord. Le foot freestyle, on l'a dit, c'est une discipline, on va dire, un petit peu parallèle au football classique. Comment on devient foot freestyler? Est-ce qu'on peut tous devenir ici autour de la table, Mathis, Loïc et Cédric et même moi, foot freestyler?
Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Bah, il faut venir prendre des cours avec moi, du coup. Mais
vous
carrément.
Donnez des cours de foot freestyle,
bien
d'ailleurs?
Bien sûr. Toute la semaine, je donne des cours donc dans une école du côté de Cambrai, à Arras, également avec l'association Croustillant, tous les mercredis, et du côté de Tourcoing également le mardi. Et à ça s'ajoutent donc des prestations entre guillemets individuelles où je propose des petits spectacles interactifs avec derrière des cours de freestyle pour les initiés, quoi.
Mais comment on en vient dans les écoles à vous solliciter pour amener les enfants au foot freestyle? C'est quoi l'idée?
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une discipline qui est quand même relativement jeune. Elle n'est pas arrivée il y a très longtemps en France. Et en fait, là, on surfe un petit peu sur le succès. Ça fait déjà une dizaine d'années que via YouTube et les différents réseaux sociaux, ça a permis de faire connaître la discipline. Et donc, voilà, les demandes sont arrivées avec ça, donc pour les spectacles et puis pour les cours. Et ben moi, ça fait 7 ans. J'y croyais pas trop au début, mais ça fait 7 ans que j'en vis à 100% et que j'en vis très bien, quoi. Donc c'est.
Mais comment vous y venez? Comment d'un coup vous dites bah tiens, je vais être foot freestyler? Parce que déjà sur le terrain, vous étiez monsieur gris-gris, j'imagine.
Un petit peu, ouais. Un petit peu trop, même des fois, j'aimais bien voir le ballon. Et puis quand on comprend qu'on ne deviendra pas footballeur professionnel et qu'on n'a pas d'avenir dans le foot, bah on arrête tout simplement. Et en fait, je suis tombé sur des vidéos de freestyle à ce moment-là. Ouais. Et ça a été un petit peu, entre guillemets, une renaissance. Et après, de fil en aiguille, on commence à faire des compétitions, rencontrer un petit peu d'autres freestylers. Ça fait une communauté, en fait. Et créer des compétitions, créer des événements. Et puis après, au final, en vivre à 100%.
Mais perdurer encore un peu parce que je sens que ça va devenir un sport olympique. Maintenant qu'on a le skateboard et compagnie, un jour on va avoir le foot freestyle. Et allez-y, hein, moi je m'y mets ce jour-là parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une médaille d'or au JO que je n'aurai jamais.
Alors pour le coup, là il y a énormément de boulot et même pour les freestylers professionnels, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, moi c'est mon métier, j'en vis à 100%, mais des spectacles et donc des cours. Par contre, il y a des freestylers qui vont dédier leur carrière entière entre guillemets à la compétition, et là c'est pas le même niveau du tout. Je sais que
aujourd'hui il y a des championnats du monde de foot freestyle, il y a des compétitions nationales.
C'est ça, moi j'avais fini top 8 français donc en 2020, mais le Covid avait eu raison de ma motivation pour continuer les championnats. Et en fait, étant donné que je commençais à avoir beaucoup de demandes, donc de prestations, je me suis vraiment focalisé là-dessus, parce que les entraînements pour les compétitions, ils demandent beaucoup d'énergie. Et donc du coup, bon, étant donné que je commence à vieillir un petit peu, j'arrive à la trentaine, je me suis dit bon, on va peut-être pas rester sur les compètes, on va plus se concentrer sur les shows.
Loïc Bonnet, voilà. Pour France 3.
Je suis sur les réseaux une nordiste qui est une référence française, Mélodie Donchet. Ouais. Quelle est la différence de niveau entre un homme et une femme en foot freestyle par rapport à du foot normal? Est-ce que c'est plus proche?
Alors c'est à peu près la même chose, excepté Mélodie, justement, parce que elle, c'est vraiment il y a une distance, on va dire, assez grande entre la moyenne des freestyleuses et elle, parce qu'elle elle fait partie des premières freestyleuses qu'il y a eu en France. D'ailleurs, j'avais commencé avec elle, on avait fait nos premiers spectacles de rue ensemble au Touquet. Et puis après, bon voilà, elle a tout raflé, et c'est à juste titre, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Maintenant, c'est vraiment sur tout ce qui est compétition. Après, en termes de spectacle, etc., on va dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un niveau technique extrêmement développé. C'est vraiment tout pour faire plaisir au public.
Après, il y a une notion artistique aussi. On n'est pas là juste pour enchaîner les dribbles et les gestes complètement dingues. Voilà, il y a toute une mise en scène autour de ça.
C'est exactement ça. Et puis de l'interaction également avec le public, etc., quoi, qui est hyper importante.
Donc, ce qui veut dire que, par exemple, voilà, j'ai mon club de foot en fin de saison, j'organise un tournoi, et je me dis, tiens, je veux animer le moment du midi après les poules le matin après du barbecue, hop j'appelle Rémi Coquel et vous animez le barbecue.
C'est ça, c'est le classique en plus, hein.
Enfin, c'est vrai,
pour les tournois de foot, c'est ça, c'est on anime un petit peu à l'entracte entre guillemets, et après on se place sur moi je me fais un petit atelier sur le côté, je fais un petit stand où les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs peuvent venir pour apprendre.
Ah, vous faites des initiations à quelques petits gestes complètement dingues.
entre 10 et 20 gestes, ouais, qu'on peut apprendre sur une ou deux heures, donc c'est plutôt sympa. Ouais, puis des gestes faciles, c'est accessible à tout le monde.
Cédric, après le barbecue, là.
Vous êtes
après
sympa,
le barbecue,
vous.
Après le barbecue.
Il vient de dire
mais je viens avec vous.
Non, non, il vient de dire c'est accessible à tout le monde.
Bah oui,
et là,
tous...
vous m'avez tendu le bras vers moi, l'air de dire ça y est, tu peux y aller.
Bah, vous êtes monsieur tout le monde du football.
Oui.
Je m'étais fait la même réflexion.
Mais moi, arrêtez, parce que si je m'y mets, il va y avoir de la concurrence. Attention.
Voilà, le foot freestyle avec Rémi Coquel, membre de l'équipe Tribune Nord. On rappelle comment vous contacter Rémi aujourd'hui.
Alors, sur les réseaux, sur Facebook, Rémi Coquel, sur LinkedIn également, Rémi Coquel, ou tout simplement, tapez Rémi Freestyler Foot, Rémi avec un Y, bien sûr, sur Google, et là, on tombe directement sur mon profil.
Ah, premier référencé. Ok.
Pas mal référencé, on va dire.
Eh bien, n'hésitez pas à contacter Rémi, qui va continuer à débattre avec nous dans cette émission.
Tribune Nord, le chiffre de la semaine.
Alors le chiffre de la semaine, c'est le chiffre de 25%, une entrée dans le capital du Racing Club de Lens qui pourrait se préciser avec ce groupe Isos Capital Management, une société d'investissement qui est dirigée par deux Américains. Il pourrait concrétiser son arrivée au capital du Racing Club de Lens. C'est une indiscrétion signée de nos confrères de l'équipe et de Joël Domeneghetti, notre confrère toujours très très bien informé. Mais Joël précise, ceci ne devrait être effectif qu'une fois les droits télé de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 connue.
Tribune Nord, le joueur de la semaine.
Ça, ce sera après le joueur de la semaine. On va rester donc bien entendu sur ce chiffre de la semaine. Loïc, bon bah voilà, c'est cette montée en puissance qui semble se confirmer avec ce que disait déjà Joseph Fougourlian il y a quelques mois. Voilà, il est à la recherche depuis de longs mois d'apports extérieurs et de sociétés qui pourront l'aider à consolider les positions du Racing Club de Lens.
Oui, on sait cette recherche en cours. Nos confrères de l'équipe, en effet, sont toujours très bien renseignés sur ces sujets-là. Et voilà, avec cette info-là, je serais curieux de savoir s'il y a une condition suspensive au montant des droits télé par rapport à leur entrée dans le capital, parce que c'est un long feuilleton et pour le moment, vu qu'on n'en a pas l'issue, c'est très certainement parce que les montants proposés par les éventuels diffuseurs sont en deçà des espoirs de la Ligue et peut-être en deçà des espoirs d'un éventuel nouvel actionnaire du Racing Club de Lens. Voilà, toujours est-il que s'ils entrent dans le capital à hauteur de 25%, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le club, comme vous dites, pour sa montée en puissance et voilà, avec un budget toujours plus solide du côté de l'Artois.
Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui le club est valorisé à environ 150 millions d'euros puisqu'il y a une entrée au capital déjà en début de saison avec la Inside Invest, cette société d'investissement régionale qui a investi 20 millions d'euros, donc 13% du capital, donc club valorisé à 150 millions d'euros. Et pour en revenir à ce fonds d'investissement new-yorkais, c'est un fonds, Cédric Van Goten, qui se concentre pour l'instant sur les investissements dans le sport et le divertissement, qui a une franchise de hockey sur glace, notamment au Canada.
Il y a beaucoup d'opérations dans les clubs de Ligue 1, Ligue 2 qui sont justement bloquées actuellement par ces histoires de droits télé. Ça stoppe un peu tout le monde. Moi, ce qui m'étonne là dans l'histoire des Américains, c'est que souvent, quand les Américains viennent, c'est pas pour être minoritaire. Donc, je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui se trame à plus long terme. Et ce qui m'inquiète un peu aussi, c'est que les Américains, quand ils viennent souvent, après, c'est pour une entrée en bourse, pour être sûr de limiter les risques financiers. Donc ça, c'est pas dans ma philosophie perso, mais voilà, c'est le monde du foot tel qu'il est aujourd'hui.
Rémi Coquel ?
Bah moi, au-delà de l'aspect, on va dire, technique et de ce qui va arriver donc dans un futur proche, ou enfin sur le court ou le moyen terme, moi, je pars plutôt du principe de me dire que le Racing Club de Lens devient séduisant du coup, puisque il attire donc des investisseurs, ce qui n'était pas forcément, c'est ce qui était déjà un petit peu le cas en Ligue 2, mais bon, on se dit que le club là commence à avoir une certaine empreinte et une certaine condition, et donc ça, qui est de la demande, c'est le plus important. Après que ça se fasse ou que ça ne se fasse pas, si c'est pas eux, ce sera un autre. Et donc je me dis que voilà, le plus important, c'est que le club commence à séduire un petit peu des investisseurs. C'est
non, cool. Voilà, il y a un vrai travail de fond aujourd'hui qui est réalisé par le propriétaire Joseph Fougourlian, qui est bien aidé au quotidien par Arnaud Pouille. J'ai l'impression aussi, voilà, on prend aussi son temps, on construit pierre par pierre, Loïc.
De toute façon, ça se fait pas, je pense, du jour au lendemain.
Bien sûr.
Je suis pas dans les secrets de ce genre de négociations. Mais c'est sûr que ça a une autre gueule qu'un investisseur azéri d'il y a à peine une décennie. Voilà, pour le Racing Club de Lens. Donc ça montre bien le changement de dimension.
Non, c'est des opérations qui se font dans le temps et qui sont liées à d'autres questions. Je veux dire, je pense que la propriété du stade, le jour où le club serait propriétaire du stade, c'est un autre dossier, mais qui est lié. Jour où le club est propriétaire du stade, il est encore plus séduisant, comme le disait Rémi.
Mais Joseph Ougourlian, sur ce sujet-là, je me rappelle, sur notre antenne, il avait été hyper optimiste en disant que voilà, on était tout proche d'une concrétisation. Et même, je l'avais trouvé assez surprenant, où clairement, il disait, bah voilà, c'est bon, ça va se faire. Mm-hmm. Et derrière, on avait un peu rétro-pédalé, notamment au niveau de la mairie de Lens, Rémi.
Alors, j'ai pas la réponse là directement, mais je serais curieux de savoir justement combien de clubs français actuellement
possèdent
leur stade. Parce qu'il y avait la JOCR.
Lyon, c'est sûr.
La JOCR également, depuis quasiment toujours. Ils ont quasiment été les seuls pendant des années à avoir leur stade. Donc la JOCR, Lyon. Il y en a pas beaucoup, hein, dans l'absolu. Je pense que.
J'ai pas l'info.
Et donc on se rend compte que finalement, ça, cette situation, ce serait vraiment un privilège. Ce serait quelque chose de, bah, presque, je vais pas dire d'unique, mais presque, quoi, finalement. Donc, évidemment que ça rendrait encore plus évident ce que disait Cédric. Le club est bon. Déjà là, sans le stade, commence déjà à séduire. Donc avec le stade, ce serait une bonne chose. Ouais, en effet.
Cédric, c'est sur les montants que ça jouerait. Parce que pour le club propriétaire du stade, la personne qui viendrait mettrait beaucoup plus que 25 ou 30 millions.
Ils sont réunis ce soir. Cédric Van Goten, Loïc Bonnech, Rémi Coquel, Mathis Caron. On file en Argentine.
Tribune Nord. Le joueur de la semaine.
Et le joueur de la semaine, il est argentin. Il a mis fin au rêve lillois en Ligue Europa Conférence. Emiliano Martinez, il avait déjà brillé au match aller il y a 10 jours de cela. Il a brillé lors de la manche retour lors de cette séance de tir au but où il a beaucoup fait jaser. Ah, on l'a beaucoup sifflé lui aussi dans le public de Pierre Mauroy.
Il y a Diché qui frappe deuxième poteau. C'est trop long la tête. La parade d'Emiliano Martinez, encore une fois. Oh là 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 là, le cauchemar. Le cauchemar Emiliano là. Ah, il va falloir mettre fin, on est marabouté là, on est marabouté par un sorcier argentin, c'est pas possible ça. Il est là Martinez, Nabil Ben Taleb, pied gauche face à Emiliano Martinez. C'est frappé, arrêt. Il est parti du bon côté. Et voilà, il chambre. Arrêt de Martinez et il embrasse et il chambre le public. Avec le doigt sur la bouche, Benjamin André, pied droit, il s'est reculé, c'est frappé, arrêt. Arrêt de Martinez. Arrêt de Martinez. Eh, il est parti du bon côté. Et voilà, notre cauchemar continue.
Ah, c'était terrible, hein. Mathis Caron. Emiliano Martinez, voilà, il nous poursuit. On voulait le mettre un peu en avant parce que, voilà, au-delà de son lien avec le football français, donc désormais le football lillois, ça reste un super gardien. Bon, il a tendance à déborder, mais hors du foot, mais.
Bah, vous l'avez dit au match aller, déjà, il a été excellent. Il fait des parades extraordinaires. Il en fait 3-4, je pense, qui sont vraiment décisifs sur des buts qui avaient l'air tout faits pour les Lillois. Et dans ce match retour, j'ai l'impression que sur cette séance de pénalty, il est vraiment entré dans la tête des Lillois. C'est-à-dire que dès le début, quand il vient prendre la balle à Nabil Bentaleb, au moment de frapper, je me suis dit ah là il va la rater. il a ce truc, il se nourrit de la frustration des gens. Enfin, c'est pareil quand il vient narguer le public, je pense que ça a joué aussi dans le mental des...
Mais il a pas peur de ça, hein.
Non, justement, je pense que il s'en nourrit, ça me paraît évident. C'est un joueur qui aime ça, qui a presque besoin de ça. Je pense que les sifflets, ils s'en fichaient pendant ce match. Je pense vraiment qu'au contraire, ça le poussait, ça le transcendait. Et puis j'imagine aussi qu'il y a certains Lillois dont peut-être Benjamin André qui a raté son pénalty et qui est français, peut-être qu'il a repensé à la Coupe du Monde. Il est dans la tête de tout le monde, ce gardien.
Rémi ?
Ah bah, il a presque tout dit. Non, c'est un gardien qui est un joueur qui est habitué à ce genre de contexte où il se fait huer, etc. En Amérique du Sud, c'est beaucoup sur le chambrage, etc. Et puis les ambiances, on va dire, chaudes bouillantes. Donc oui, il s'en nourrit, et puis bon, à côté de ça, c'est vrai que c'est un très bon gardien, il a réussi à déstabiliser, parce que finalement, la pression, elle est sur qui réellement quand il y a une séance de tir au but? Est-ce qu'elle est plus sur les joueurs ou sur le gardien? Moi, sur les joueurs.
Parce que le gardien, s'il se rate, bon, bah, c'est voilà, tout. Il est parti du mauvais
logique.
Côté. Ben oui, c'est
voilà.
Logique, ouais.
Donc, elle est en effet plus sur les joueurs, et donc, à ce moment-là, il sait que c'est eux qui ont la pression, s'il vient rajouter encore un petit peu, puis mine de rien, les sifflets et tout ça, je me demande si finalement ça perturbe pas un petit peu aussi le tireur, même à moindre impact, hein, mais un petit peu. Et là, du coup, bon, là, c'était lui qui... En fait, il y a tellement pas de pression à avoir dans ces moments-là que lui, il vient en rajouter pour les joueurs qui sont en face. Et puis, ben, après, il n'y a plus qu'à.
Loïc ?
Mathieu, je suis convaincu qu'il se nourrit de, ça. À l'issue du match aller, on avait déjà dit qu'il nous rappelait ce cauchemar français. Et à mon avis, c'est pas passé inaperçu pour lui. Hein. Il a dû entendre ça. Peut-être qu'il n'avait pas la référence avant de jouer contre Lille réellement. Mais
oh, voilà, il a dû se dire quand même, je vais jouer face aux Français. Puis j'irai à Pierre-Mauroy bientôt. Oh, j'irai en France bientôt.
Je serais curieux de savoir ce que pense Fernando d'Amico de ce personnage.
Vrai. Ah oui, c'est vrai, l'ancien Lillois milieu de terrain qui a marqué l'histoire du LOSC.
Vous savez, je pense que français, pas français, il doit être comme ça contre tout le monde. Oui. Parce que c'est l'homme qui est comme ça. Le footballeur est génial, l'homme un peu plus détestable, mais voilà, il se nourrit de ça, il est performant grâce à ça. De toute façon, dès le début du match, et même à 1-0, même à 2-1, on savait que lui, il voulait les pénaltys. Parce qu'il traînait tellement, ça se voyait, ça se transpirait, il voulait les pénaltys. Il voulait en arriver là. Et puis voilà.
Mais finalement, est-ce que c'est pas du spectacle, finalement? On parlait tout à l'heure d'un spectacle, s'il n'est pas bon, siffle. Ben là... Là, c'est le spectacle en lui-même qui vient des tribunes. C'est un jeu entre lui et les supporters. Enfin, un jeu dangereux, mais c'était un jeu tout de même.
C'était un peu dans la dramatique de cette rencontre. Plus les minutes passaient, plus on se disait... Moi, je me disais, j'ai envie de revivre une séance de tir au but, même si ça peut faire mal. Avec Emiliano Martinez en face.
Il a été un peu aidé par l'arbitre pour qu'il y ait tir au but aussi, mais bon, bref, ça c'est autre chose. Entre la faute sur Ben Taleb et le penalty pas accordé, c'est sûr qu'on arrivait petit à petit au tir au but. Et l'autre le voulait. Moi, je vous le redis, il le voulait.
Mathis Caron.
Oui, et puis moi je voulais aussi revenir sur le fait quand même qu'on parle d'un gardien qui a gagné une séance de tir au but en finale de Coupe du Monde. Et ça, je pense que dans la tête des joueurs, ça a de la valeur, c'est clair. Donc je pense que quand j'avais dit Benjamin André, qui est français, qui a dû regarder cette finale, qui a dû être dégoûté comme nous tous à cette table après ça, ça crée un personnage en fait. Ça crée un mythe, Emiliano Martinez. Et d'ailleurs, comme on l'avait dit, nous journalistes, on en a parlé avant le match.
Ah bah oui, c'est un sujet de présentation.
Ça crée un scénario qui évidemment pèse aussi sur les joueurs. Je refuse de croire qu'eux, ils mettent ça de côté. Donc il y avait toute une histoire, tout un mythe, toute une légende autour de Emiliano Martinez, ce bourreau des Français, ce bourreau des clubs français maintenant. Donc je pense que ça a pas dû aider.
Est-ce que vous seriez content de le voir gagner la Ligue Europa Conférence avec Aston Villa?
C'est une vraie question.
À la limite, vaut peut-être mieux avoir été éliminé par le gagnant vainqueur.
Allez, on lui donne alors? On lui donne ou pas?
Non.
Ou alors on la donne à Aston Villa, mais quelqu'un d'autre dans les buts. C'est un bon compromis.
Ouais, parce qu'Aston Villa, finalement, ils y sont pour rien.
Vous le suspendez.
À force de récolter des cartons, et pendant le match, et pendant les tirs au but, mais qui comptent plus, mais qui compteront plus tard, il va bien finir par être suspendu un jour.
On rappelle qu'il avait été averti pendant le match, qu'il a pris un carton jaune pendant la séance de tirs au but, et moi, comme vous, peut-être, je ne connaissais pas la règle comme quoi les cartons étaient remis à zéro au début de la séance de tirs au but, mais même si le carton comptera pour plus tard. Il a pris un autre carton jaune, mais il n'a pas été expulsé.
C'est incroyable.
Perso, ça m'a rendu complètement dingue.
Est-ce que ça aurait tout changé après?
Pas de gardien dans le but, bien sûr.
Non, mais j'ai rien.
C'est vrai qu'on a adapté le règlement parce que ça compliquait forcément les choses.
Ah, oui, parce que là, en plus, les changements avaient été faits. C'est un joueur qui aurait dû aller dans les cages.
Je sais pas. Ah, oui, c'est vrai, tous les changements étaient faits, pardon.
Exactement. Bon, allez, on enchaîne. On parle de Ligue 2. C'est parti, on a la bourre.
Tribune Nord. Toute l'actualité de la Ligue 2 en direct sur France Bleu Nord. Sylvain Charlet.
Bon, Dunkerque se rapproche du maintien. Dunkerque s'est imposé 1-0 à Amiens. Dunkerque est 15e. Je ne parle même plus de Valenciennes parce que Valenciennes a encore perdu. Valenciennes, hop, c'est direction le national. Dunkerque, voilà, qui s'est relancé après 3 matchs sans succès. Cédric Van Goten, 6 points d'avance désormais sur le premier relégable. Il reste 5 journées de championnat et avec 41 points, normalement, les années précédentes, on était maintenu. Là, il va peut-être falloir encore un petit effort. C'est fou quand même.
Ouais, enfin, ça va, elle va faire du bien, celle-là. Parce que les deux derniers matchs étaient après une très bonne série, les deux derniers matchs n'étaient pas terribles. Celui-là, ça fait du bien de le gagner, ça remet la marche avant et puis ça remet un peu de carburant sur la dernière ligne droite.
Loïc ?
Ouais, non, c'est vrai que pour relancer une dynamique sur la fin de saison et quand on voit l'opération comptable au classement, c'est vraiment tout bénef pour Dunkerque. On a du mal à imaginer le couac maintenant, mais c'est vrai que c'est assez curieux qu'avec 41 points, ce soit pas fait. On parle d'encore au moins une victoire et peut-être un nul.
On se maintenait la saison dernière avec 41 points.
C'est parce que c'est des saisons à 4 descentes, c'est pour ça. Hein.
C'est vrai que là, pour l'instant, descendent Valenciennes 17 points, Quevilly-Rouen en 33 points, Concarneau 35 points, 3 35 points. Donc, ça reste quand même assez faible. Pas sûr que ces équipes que deux de ces équipes soient capables, Mathis Caron, d'aller chercher 6 points sur les 5 dernières journées, parce que c'est quand même des équipes qui ont un rythme d'un point par match. Donc si elles respectent ce rythme-là, je prends 3 et Concarneau, par exemple, avec 35 points, au rythme d'un point par match, ça ne fait que 40 points. Donc ça voudrait dire que Dunkerque, si on suit les statistiques, ça et devrait puis, le faire. Puis... Allez, encore une victoire.
Et puis il y a Annecy entre deux.
Exactement. Donc, 39 points.
C'est plutôt Annecy qui serait dépassé par 3 et Dunkerque, donc du coup je serais tranquille.
Mathis,
c'est tentant d'être confiant, je suis d'accord, mais le calendrier est pas terrible, on va dire, pour Dunkerque.
Allons-y.
Il joue 3 concurrents pour la montée. Enfin, 3 concurrents. 3 potentiels prétendants à la montée, je cherchais mes mots, pardon. Auxerre, Angers, donc les deux premiers. Et Caen, qui est 8e, mais seulement à 2 points de la 5e place, qui est qualificatif pour les playoffs pour la montée en Ligue 1. Donc, c'est quand même 3 matchs qui vont pas être évidents. Là où 3, par exemple, va jouer Valenciennes, qui est une équipe qui aujourd'hui donne des points gratuits. Ils sont assurés de descendre. On imagine qu'ils vont pas forcément tout donner contre 3 qui, lui, joue sa survie. Donc, niveau calendrier, j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit avantage pour 3. Mais c'est vrai que c'est tentant d'être confiant, 41 points.
Rémi.
Moi, je suis confiant aussi. Et d'autant plus que qui l'eût cru avec le début de saison, on se demandait, je me rappelle encore, un Tribune Nord en début d'exercice.
Bien sûr. En début d'année,
Qu'est-ce qui va se passer pour Valenciennes ou Dunkerque? Et on disait que c'était avantage Valenciennes en début de saison. On disait encore.
C'est vrai.
Alors qu'au final, Dunkerque sont presque à 3 fois plus de points qu'eux. Maintenant, ce que disait Mathis, c'est que le calendrier est loin d'être facile. Et au-delà des prétendants à la montée, ils vont jouer aussi Quevilly qui joue son maintien. Voilà, et Bordeaux également qui est à égalité de points avec Dunkerque également. Donc c'est que des matchs finalement où c'est que des finales. Ils vont jouer 5 finales sur la fin de saison.
Le calendrier est important, mais la dynamique l'est bien plus. Et comment vous allez m'expliquer que 3, qui vient pourtant de la Ligue 1, qui était moribond toute la saison, tout d'un coup il va se refaire la cerise, comme on dit en vélo, et c'est impossible.
Et surtout que Dunkerque a montré des choses, il y a un élément révélateur, vous l'avez peut-être vu dans La Voix des Sports et vous avez peut-être vu ce match, c'est quand même sur le but, Loïc, 26 passes, 65 secondes de possession, plus d'une minute de possession. Ça veut dire que dans les principes de jeu, il y a des choses qui ont été mises en place en cette fin de saison. Donc il y a des garanties, il y a quelques assurances.
Ouais, quand on regarde l'action, enfin voilà, c'est une équipe joueuse, c'est joué avec intelligence, conclu par un jeune de 18 ans qui marque son premier but en Ligue 2. Yassine, c'est le 16e ou 17e buteur.
17e buteur différent.
Différent du club.
Ah, c'était une question du quiz, ça.
Ah, bah voilà.
Ouais, elle tombe.
Et voilà, et quand on voit le nombre de points qu'ils ont pris sur la phase retour, je pense qu'ils n'ont pas à rougir par rapport aux autres candidats à la montée en Ligue 1. Bon, donc,
ils vont se maintenir.
Okay. Oui, bon, pas de motif d'inquiétude.
Là, c'est bon, on est tous d'accord.
Oui, bah oui.
Okay. Et est-ce que Valenciennes remontera rapidement? Ok, d'accord. Le quiz, c'est parti, on enchaîne. Merci, Ali.
Tribune Nord, le top com.
Ils ont un bon action.
Ouais. Oui, ça va revenir. Puis il y a un très bon François Launay à la communication de ce club, l'ancien journaliste.
Ça travaille en tout cas.
Ça bosse. Allez, petit top com avant le quiz si on a le temps pour revivre cette saison européenne, parce que voilà, c'est terminé. Elle est terminée cette saison européenne. Mathis Caron, finalement, beau bilan. Lens en 8e, Lille en quart, même s'il y a un peu de frustration tout de même sur les fins de parcours.
Oui, je pense qu'il faudra quand même quelques jours pour digérer, notamment pour les Lillois. Je pense que pour les Lensois c'est déjà passé, j'espère, mais pour les Lillois c'est encore un peu frais. Et puis c'est vrai que pendant quelques minutes, en tout cas, on s'est dit c'est fait pour Lille. Jusqu'à la 87e minute.
Et pour Lens aussi,
c'est vrai.
Il y avait 2-0 à la mi-temps.
C'est vrai que c'est assez similaire, mais jusqu'à la 87e minute de jeu, tous les Lillois, tout un stade se dit c'est fait, on va y aller, on va aller en demi. On commence à se dire quel adversaire on va affronter, on se dit est-ce que ça va être Fenerbahçe, est-ce que ça va être Olympiakos, c'est au final frustrant, mais c'est quand même un bon bilan.
Vous aviez déjà réservé votre billet.
Les avions étaient un peu chers.
Allez, on va revivre notamment ce match mythique face à Arsenal, Lens Arsenal et le deuxième but d'Eli Wahi. Il y a eu ce mythique but de Fulgini face à Séville, le match retour avec au commentaire François Launay.
Il a récupéré, vas-y, Flo Sotoka, le contre, le ballon pour Fulgini qui va présenter tout seul devant Mitrovic. Vas-y, Angelo ! Ouais !
Ce commentaire, Rémi, est exceptionnel.
Ouais, Ouais, non mais à la hauteur de ce qui était en train de se passer. Hein,
exactement.
Non, c'est parfait. Même les commentaires sont
c'était
parfaits.
C'était pour un barrage. Hein. C'était pour un barrage. C'est pas pour une qualification en quart.
Ouais,
de
mais mine de rien.
Il m'a fait transpirer.
Lens venait de battre le tenant du titre en Europa League, quoi. En sachant que vous avez battu Arsenal juste avant, on se disait voilà, Bollaert était imprenable et en plus Lens s'est permis de faire deux exploits européens sur un mois et demi de temps. C'est pas mal.
Allez, puis après il y a cette confrontation mythique en Ligue Europa Conférence entre Lille et Séville, qui entre Lille et Aston Villa, qui va désormais marquer l'histoire du club. Et au match aller, Lille était menée 2-0 et à la 84e, le corner, Cabella, le bras levé pour la combinaison, c'est frappé. Point de pénalty, la tête, le but. Oh. La tête, le but. Parfaux. Oui, Parfaudé, Diakité. 2-1. Voilà, le but de l'espoir. Et puis cet espoir, il est entretenu au match retour avec, dès l'entame de match, cette ouverture du score sur une magnifique action collective du LOSC.
Transversal cette fois-ci pour Gudmundsson. Centre en retrait. La reprise de but. Yes. La reprise de but. La vitesse. Le meilleur buteur européen dans l'histoire du LOSC. Qui vient d'ouvrir le score. Youssouf. Oh oui, Youssouf. Fait vibrer Pierre Bourdon.
Et on sent l'ambiance du stade derrière Cédric Van Gotten. Ouais. Il s'est vraiment passé quelque chose à ce moment-là. Un peu comme lors de Lens Arsenal, un peu comme lors de Lille Chelsea il y a deux saisons de cela.
C'est souvent dans les épopées européennes qu'on peut renforcer ou recréer quelque chose avec son public. Peut-être que là, c'est en train de repartir.
Bon, il n'y aura pas de quiz. Ah. Bon, ouais, je peux vous en poser une comme ça pour le fun. Jonathan Iconé va jouer les demi-finales de la C4 avec quel club?
Fiorentina.
Ok. Adrien Van Beveren, c'est pas du foot, a gagné une épreuve ce week-end. Ouais, en auto alors qu'il fait de la moto. Oh. Qu'est-ce que j'ai? Les stats de Sotoka sur penalty cette saison?
4.
5 sur 5.
4 sur 5.
4 sur 4. 4 sur 4. Et que doit faire Lille pour être deuxième du championnat mercredi soir?
Gagner.
Gagner
3-0 à Monaco.
Gagner à Monaco. 1-0 suffit, puisque il passerait devant la différence de but. Merci à tous les quatre. Rémi, Mathis, Loïc et Cédric, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tribune Nord. Merci à Ahmed et à Alice à la réalisation. Le gagnant du ballon, c'est Jean-Sébastien.